Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Vous avez bien raison. Les réseaux sociaux sont-ils responsables de la violence chez les jeunes ? Pas d'avis autour de la table. Après le drame de Nogent en Haute-Marne, où une surveillante a été poignardée à mort par un collégien de 14 ans, le coupable est tout trouvé, les écrans. Quand j'étais ado, moi, c'était les jeux vidéo qui nous rendaient violents et associables. Les Meuporg, pour ceux qui ont la ref. Avant, dans les années 80 et 90, d'autres ados étaient de plus en plus déchaînés. Là, c'était la faute du métal et des jeux de rôle, qui en plus les rendaient satanistes. On pourrait remonter le temps longtemps, comme ça. Et je suis sûre qu'on trouverait que les pharaons estimaient que vraiment, la jeunesse d'Égypte antique, c'est plus que c'était. Ça doit être la faute des chats, on les vénère trop, ces greffiers imprévisibles. C'est bien de vouloir trouver l'origine du mal, mais il faudrait peut-être déjà rappeler que depuis 2016, le nombre de mineurs poursuivis par la justice a baissé de 25%. C'est vrai, les actes violents très minoritaires et aussi très médiatisés augmentent, tout comme les conflits partout dans le monde. Les contenus choquants véhiculés par les réseaux sociaux, ils viennent majoritairement d'Ukraine, de Palestine, de l'Amérique de Trump, des masculinistes, des influenceurs d'extrême droite, etc., etc. Peut-être que les adultes, en premier lieu, devraient se regarder dans un miroir et se rappeler qu'une société violente engendre des individus violents. Tout de suite, le flash de Ryan.
En Inde, un avion de ligne à destination d'Angleterre s'écrase quelques minutes après son décollage. L'engin se dirigeait vers Londres, selon Air India. L'accident s'est produit au décollage, selon les chaînes de télévision. Des images montrent des débris en feu, tandis qu'une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel près de l'aéroport. L'avion concerné est le vol Air India 171, un Boeing 787, a confirmé la compagnie. Le ministre indien de l'aviation, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, s'est dit choqué et accablé, affirmant que ses pensées et prières vont à toutes les personnes à bord et à leurs familles. Parmi les 242 passagers et passagères, 169 étaient de nationalité indienne, 53 de nationalité britannique, 7 de nationalité portugaise et 1 de nationalité canadienne, a fait savoir la compagnie aérienne, compagnie qui vient d'annoncer qu'il y aurait un seul et unique survivant. Aux États-Unis, les manifestations contre la politique migratoire de Trump se poursuivent. Hier, plus de 1000 personnes ont protesté pacifiquement dans les rues de la Cité des Anges. Los Angeles reste l'épicentre des manifestations contre la police fédérale de l'immigration, mais le mouvement s'est élargi à d'autres grandes villes du pays. Des tensions ont également lieu à Seattle, la plus grande ville de l'État de Washington. Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a, lui, pris les devants en faisant appel à la garde nationale. Il veut éviter les débordements dans la ville de San Antonio, au sud de l'État. Depuis vendredi, au moins 300 personnes ont été interpellées dans le sud de la Californie. En Irlande du Nord, ce ne sont pas les tambours d'un festival d'été qu'on entend résonner, mais les sirènes et les cris. Pour la troisième nuit consécutive, la région est secouée par des violences anti-immigrés. À Ballymena d'abord, puis dans tout le comté d'Antrim. Cocktail Molotov, affrontement avec la police et même un centre de loisirs incendié à Larne. La haine s'est installée dans les rues et la tension ne faiblit pas. Retour sur une spirale inquiétante avec Maëva.
L'histoire commence dans une salle d'audience lundi dernier. Une adolescente dépose plainte pour une agression sexuelle. Deux garçons de 14 ans sont mis en cause. L'un d'eux ne parle pas anglais, un interprète roumain est donc appelé. Ce détail, simple outil de justice, devient aux yeux de certains un symbole et dans les heures qui suivent, la vie de Ballymena bascule. Dans la soirée, un rassemblement est organisé devant le lieu présumé de l'agression, officiellement une veillée, mais très vite, le calme cède la place aux violences. Des individus masqués de RS, des barricades, lancent des projectiles, s'en prennent à la police, aux vitrines et aux fenêtres derrière lesquelles dorment des familles immigrées. Le mobile est clair, les cibles sont étrangères, perçues comme non locales. Le racisme en toile de fond, la rumeur comme carburant. Des vidéos circulent, des slogans haineux fusent, putain d'étrangers, et une phrase claque dans une vidéo devenue virale. Ce sont des locaux, non, alors qu'ils restent là-dedans. La petite ville devient le théâtre de trois nuits de violence. Les émeutiers, souvent masqués, lancent des cocktails Molotov, pierres, feux d'artifice, attaquent des magasins et incendient des maisons. 6 personnes ont été arrêtées et 32 policiers sont blessés. Des maisons et commerces détruits et des familles évacuées. Cornelia Albou, 52 ans, travaille à l'usine. Elle habite en face de l'une des maisons attaquées. Elle raconte au journal Libération une nuit d'effroi, ses enfants terrorisés, des flammes à quelques mètres. La nuit dernière, c'était insensé. Ma famille a été vraiment effrayée, dit-elle. On va partir, on ne sait pas ce qui peut arriver après ça. Le responsable de la police d'Irlande du Nord, interrogé par le New York Times, Ryan Anderson, parle d'attaques clairement motivées par des considérations raciales. Il dénonce une montée inquiétante des attaques haineuses à caractère racial. Le directeur d'Amnesty International pour l'Irlande, Patrick Corrigan, évoque auprès du média Independent un pogrom aux conséquences trop douloureuses pour être imaginées. Face au chaos, des renforts venus d'Angleterre et d'Écosse sont mobilisés. Le gouvernement britannique et même Westminster lancent un appel au calme. Michelle O'Neill, première ministre de l'Irlande du Nord, affirme qu'il y a une justification pour aucune violence. Sur les réseaux sociaux, la colère trouve écho dans les discours des figures de l'extrême droite qui, pour certains, n'hésitent pas à saluer ces violences attisant un feu déjà bien trop vif. Ce qui se passe à Ballymena dépasse une simple flambée locale. Les violences s'étendent à Carrickfergus, Larne et même Belfast. C'est le reflet d'une tension profonde entre conflits anciens et fractures contemporaines. L'Irlande du Nord, à la croisée de chemin, voit ressurgir une violence raciale qui résonne jusque dans plusieurs régions d'Europe. L'usage du mot « pogrom » par l'Amnesty International illustre la gravité perçue de la situation à Ballymena. L'Irlande du Nord, malgré les accords de paix, reste traversée par des tensions identitaires profondes.
La Ligue des droits de l'homme porte plainte contre Eurolinks. D'après France Info, la plainte met en évidence le rôle crucial de l'entreprise française. Cette dernière approvisionne Israël en composants pour rassembler des balles d'armes automatiques. Selon Emmanuel Daoud, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, qui a introduit cette action en justice, ces armes ont été employées pour exterminer la population de Gaza. Il déclare, elles sont utilisées contre l'ensemble de la population gazaoui, car l'armée israélienne est banale, elle tire dans le tas. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a une nouvelle fois vigoureusement rejeté ces allégations lors de son interpellation au Sénat pendant les questions gouvernementales hier. Le numerus clausus en études de médecine va être supprimé. Yannick Neuder, le ministre en charge de la santé et de l'accès aux soins, a déclaré aujourd'hui son intention d'éliminer le numerus clausus. Cette mesure restreint le nombre d'étudiants et d'étudiantes en médecine pouvant passer en deuxième année. Cette politique mise en place en 1971 est vivement contestée alors que de nombreux praticiens font défaut sur le territoire, engendrant des zones de déserts médicaux. Il explique aussi que le nombre de places sera fixé en fonction des besoins sur le territoire. Samedi 24 mai, 14h30, au Triangle, ça s'agite pour préparer le défilé fantastique qui aura lieu le 14 juin à partir de 16h. Parmi les différents ateliers chorégraphiques proposés, Gwen s'est rendue à celui « Parents-enfants ». Aujourd'hui, le cours a été proposé par Églantine.
Églantine Chauchet est l'une des danseuses chorégraphes du défilé fantastique.
Proposer un atelier famille, c'était hyper important parce que ça fait partie justement de la culture hip-hop aussi, de pouvoir se rassembler, de comment créer une connexion avec son enfant, avec la danse, le mouvement, comment créer un autre rapport aussi.
Une connexion effective chez les familles participantes comme Séverine et Lisa, 6 ans. Informée du défilé fantastique par un mail du Triangle, Séverine a été emballée par ce projet joyeux et festif et y a vu l'occasion de partager des moments avec sa fille.
Il n'y a pas d'activité qu'on fait vraiment ensemble, souvent c'est moi qui l'amène à la gym, enfin voilà, on a chacune nos activités, mais là c'est vraiment quelque chose qu'on partage aussi que toutes les deux. Il n'y a pas son petit frère, il n'y a pas son papa, voilà, c'est vraiment un moment unique où on n'a pas beaucoup et c'est chouette parce que danser on aime bien ça toutes les deux et en plus c'est facile, c'est pas des pas compliqués qui nous permettent facilement de s'amuser et de partager quelque chose.
Pour Justine, c'était aussi un moyen d'avoir des moments privilégiés avec son fils de 7 ans, Abel.
C'était un petit moment vraiment bloqué, juste pour nous, et pour pouvoir partager un peu de complicité. C'était pas gagné d'avance, mais il se trouve que ça marche bien. C'est fédérateur, quoi.
Et Abel confirme.
J'aime bien la danse, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien toutes les danses. C'est cool.
Elle nous propose de faire l'échauffement avec tout le monde. L'échauffement. Avec tout le monde. Vous savez, c'est quand on saute en l'air.
On n'a pas la place.
Et on va nous chercher des chaises, comme ça vous allez pouvoir vous asseoir quand vous voudrez.
Ouais, voilà. D'accord. Vous allez pouvoir aussi enlever les manteaux.
Pour l'instant, oui, mais après, pour...
Alors, pour vous réchauffer, moi, je vous propose de faire toute la salle.
De
tourner
la salle.
La salle en dessous, ouais. On le fait ensemble.
Non.
Allez, j'arrive.
D'accord.
Allez,
mais aujourd'hui, l'atelier était un peu différent. Des résidents d'EHPAD sont venus pour répéter.
On a des résidents, résidentes de trois EHPAD qui, le jour J, seront là en tant que supportrices, parce que c'est principalement des femmes résidentes. Et qui seront donc au bord du défilé et qui connaissent la chorégraphie, comme tout le monde.
Et ça leur rappelle leur jeunesse. Est-ce que, avant, vous dansiez ?
Oh là là !
Vous alliez au bal ?
Oh oui ! Oh là là ! Mon Dieu ! Oh ben, c'était la valse, beaucoup, le tango, le cha-cha, le de tout. Oh mon Dieu, qu'on a fait ! Le mercredi, le samedi et le dimanche. Eh ben, on en faisait beaucoup.
La famille, les différentes générations se rencontrent et échangent grâce à la danse. Églantine en témoigne.
Souvent l'évolution, on voit déjà qu'au fur et à mesure, le groupe se fait vraiment. Et c'est le but premier de cette aventure, c'est que le groupe soit solidaire ensemble, s'amuse, apprenne ensemble, s'entraide. Et ça, on le voit généralement au fur et à mesure des séances.
Selon la chorégraphe, il y a une véritable cohésion globale.
J'ai l'impression de l'extérieur, oui, qu'il y a une fédération globale. Je vois plein de hip-hoppers, de breakers qui viennent en famille, ou même si les familles ne dansent pas, il y a toujours des enfants quelque part qui sont dans le coin. Il y a toujours les compagnes ou les compagnons qui sont dans le coin. Il y a quand même ce truc assez convivial et de cercle qui se crée de manière impromptue.
On se retrouve le 14 juin dans le défilé fantastique avec notre super Radio Gadi. Le Pipe à la Pop Festival débute ce vendredi à Rennes. L'association rennaise des Pichikai organise la 4e édition de son festival qui se déroulera au Jardin Moderne à Rennes les 13 et 14 juin 2025. Comme l'expliquent les organisateurs, c'est un événement comprenant des dizaines de concerts avec notamment des groupes et artistes internationaux tels que Marcel Wave, Night Shift ou encore DJ Marvina. Une ambiance détendue attend les spectateurs et spectatrices dans un cadre chaleureux où l'on peut manger, boire mais aussi danser. Les prix sont de 32€ pour le pass de jour, 19€ le billet à la journée. Pour les moins de 18 ans, à noter qu'il est possible de réserver directement sur le pass culture. Enfin, un policier rennais blessé après la victoire du PSG, après être sorti du coma, son état s'est à nouveau dégradé. Bien que les nouvelles parues encourageantes pour ce policier de Rennes, blessé, son état n'est finalement pas stabilisé. Pour rappel, le soir de la finale de la Ligue des Champions à Coutances, dans la Manche, ce père de famille âgé de 43 ans a été atteint par un projectile pyrotechnique. Il intervenait alors comme renfort pour les festivals jazz sous les pommiers. Son transfert au CHU de Rennes vient d'être reporté en raison de son état critique.
C'est la fin de ce flash, merci Ryan.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et il est l'heure de l'interview avec toi, Enora.
Oui, t-shirt sur les épaules, signe que l'été est enfin arrivé à Rennes. Nous recevons Thomas Duménil, vous êtes chargé de communication au Triangle. Et vous êtes là pour nous parler du défilé fantastique que vous organisez ce samedi 14 juin à partir de 16h dans les quartiers sud de Rennes. D'abord, peut-être pour commencer, comment est-ce que ce projet un peu fou est né ?
Ce projet est né dans les têtes de Patrice Lefloc, qui est le directeur du Triangle, et celle de Bruce Chiffard, qui est artiste associé au Triangle, qui est breaker et chorégraphe, qui a été champion du monde de break, et qui a progressé dans son parcours vers un break plus lent, peut-être plus proche de la danse contemporaine. Et il se trouve que Bruce Chiffard avait déjà orchestré le défilé de la Biennale de la Danse de Lyon, qui est un énorme défilé qui a lieu à Lyon, qui avait, là en l'occurrence, c'était en septembre 2023. Et Patrice Lefloc a dit à Bruce Chiffard, et si on faisait ça à Rennes, pourquoi il n'y a ça que à Lyon ? Et Bruce a dit, bah ok, faisons-le. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que tout a commencé. Et c'était il y a plus d'un an maintenant.
Et est-ce que c'est souvent que le Triangle il organise un petit peu des projets hors les murs comme celui-ci ?
des projets hors les murs, des événements comme ça, gratuits, ouverts à tous, oui. Notamment en ouverture de saison ou en fin de saison, les habitants du Blône et du sud de Rennes connaissent bien sans doute la Tablée Fantastique qui venait clore la saison du Triangle habituellement. Et en ouverture de saison, il y a la rentrée Waouh qui vient justement lancer la saison et qui est vraiment dans une logique d'événements en plein air gratuit. Mais là, effectivement, un événement de cette ampleur, en tout cas, là, c'est exceptionnel.
En tout cas, ça fait plusieurs mois que vous le préparez. Il y a Gwen, une de nos collègues ici à la radio, qui a suivi vraiment toute la préparation. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter toutes les étapes de fabrication qu'il a fallu pour monter ce projet ?
Ouais, volontiers. Et en fait, le projet a commencé sous forme, on a fait une sorte de prototype de défilé l'année dernière. Donc comme je le disais, Bruce Schiffard, il est artiste associé du Triangle. Ça veut dire que c'est un soutien qui est fait par le Triangle Cité de la Danse à un artiste. Ça veut dire l'accompagner dans la production de spectacles, l'accueillir aussi pour des résidences de création. Et puis faire un travail aussi, c'est le propre du Triangle de faire un travail de lien avec le quartier. Ça a commencé en 2023. Bruce Schiffard a donc on a fait tout un travail avec les écoles du quartier, notamment l'école Volga, qui est une école du Blône, et donc on a créé un mini défilé donc dans le cadre de cette Tablée Fantastique 2024. Avec des tout petits, trop mignons, qui ont appris une chorégraphie et qui ont fait une déambulation c'était l'école Volga et justement le Triangle. Donc ça, c'était vraiment la forme un peu test, prototype avec des toutes petites pattes. Et puis là, le défilé tel qu'on va le présenter ça a commencé en janvier cette année dans le cadre du Festival Waterproof que le Triangle coordonne, festival de danse. Et il y a eu donc des ateliers auxquels effectivement Gwen a pu assister, des ateliers de danse qui ont commencé en mars. Des ateliers tout public, mais aussi des ateliers dans les écoles. On est à plus de 400 heures d'ateliers qui ont été animés, orchestrés par, certes, Bruce Schiffard, mais aussi Églantine, qu'on entendait tout à l'heure, Églantine Chauchex, du collectif Imprévu, qui est danseuse contemporaine, Équilibre Noah, qui est à la compagnie Obosso, et puis François Bocchéo, qui est plutôt danseur hip-hop. Et donc, cette équipe de chorégraphes a animé plus de 400 heures d'ateliers. Ça, c'était pour la partie danse, aussi bien en école qu'auprès du tout public. Voilà. Et puis, il y a eu aussi un volet costume, préparation des costumes, qu'on a voulu le plus participatif possible. Donc, avec des bénévoles qui se sont engagés dans l'aventure, qui ont préparé les costumes. Là aussi dans une logique de upcycling, récupération avec des tissus récupérés. Là aussi, c'est des partenaires du quartier qui se sont aussi engagés dans l'aventure avec le Triangle. Des bénévoles aussi qui sont impliqués là dans l'aventure pour aller à la rencontre des habitants, informer des conditions de circulation, aller sur les marchés, et puis le jour J, on avait aussi besoin de bénévoles, donc voilà, il y a plein, toutes les couches du projet, en fait, on les a voulu les plus ouvertes possibles et participatives.
Et vous avez cité le nom du chorégraphe Bruce Schiffard, qui du coup a monté un peu toute cette parade. Vous avez dit qu'il avait été artiste associé au Triangle.
Il est encore artiste associé.
Il est encore artiste associé. Et donc il n'y avait pas de doute que c'était avec lui qu'il fallait faire ce projet. Et...
En fait, cette expérience du défilé de la Biennale de la Danse de Lyon, qui est vraiment une grande déambulation à travers la ville, lui a donné... c'est une aventure qu'il avait aussi, lui, envie de vivre à Rennes, parce que il est rennais. Il a une histoire particulière avec le Triangle aussi, parce que il est venu sous la halle du Triangle pour faire du break quand il était petit. Il a présenté nombre d'œuvres au Triangle, et donc il avait, une certaine évidence à ce qu'il présente ce qu'il propose ça. dans le cadre, enfin voilà, dans les quartiers sud de Rennes. Et donc oui, ça a germé de cette rencontre-là.
Et si le défilé, il est dansé, il sera aussi musical. Il y a notamment un certain François B. qui aurait composé une musique spécialement pour l'événement. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ?
Bah, François B., en fait, c'est le nom de DJ de François Bocchio, qui est donc l'un des chorégraphes, mais qui est aussi DJ.
Ok, double
voilà,
casquette.
Vous pouvez aller voir, sur Instagram, DJ François B. Et il a, par exemple, été DJ au Marathon de la Danse, qui est un rendez-vous de la danse à Rennes, qui est donc orchestré aussi par le Triangle avec les Trans. Et donc c'est lui qui gère la partie effectivement, qui a fait la création musicale pour le défilé. Parce que ça sera vraiment, on peut vraiment parler de création, parce que c'est une chorégraphie qui a été donc créée par Brucifer avec son crew, avec son équipe de chorégraphes, avec une création musicale, et puis des artistes qui sont aussi impliqués dans le défilé, dans le cortège, et sous forme de show qui seront intégrés au spectacle.
Et parmi ces shows, il y a notamment une chorale et un numéro de clown aussi qui feront aussi partie du parcours. Comment la programmation elle s'est faite de ce côté-là ? Est-ce qu'il y a eu des choix à faire ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de propositions et il fallait un petit peu trier ?
En fait, c'est vraiment Bruce qui a assuré la direction artistique et il est allé aussi bien chercher dans son univers artistique, c'est vraiment la galaxie Brucifer qu'on avait déjà pu rencontrer ou découvrir un peu, lors des deux précédentes rentrées waouh du Triangle, donc en ouverture de saison, et où il avait convié des chorégraphes rennais. Break, hip-hop, danse contemporaine avec lesquels il travaille régulièrement et donc qu'il avait invité à cette occasion et là qu'on retrouve là dans cette aventure et il se trouve aussi que le Triangle Cité de la Danse c'est aussi un lieu d'atelier de pratique d'expression artistique et donc art plastique, dessin, clown, danse, musique. L'idée aussi s'est imposée d'associer les ateliers du Triangle et les praticiens du Triangle à cette aventure. Il se trouve aussi que ce week-end, c'est un rendez-vous qu'on appelle le Fait Maison au Triangle. C'est un rendez-vous de présentation de tous les travaux et de tout ce qui a été créé pendant l'année avec les quelques 750-800 praticiens du Triangle. Avec une expo d'art plastique, des spectacles de house dance, de modern jazz, de danse orientale, des déambulations, un cours de clown, un cours ouvert de yoga, etc. Et donc le défilé vient s'intégrer, se mélanger à ça. Et l'idée, c'était aussi d'associer les praticiens amateurs du Triangle au défilé fantastique.
Et pour le parcours, vous partez d'Henri-Fréville, rue de Suède exactement, à 16h pour arriver une heure plus tard à 17h au Triangle où la fête va se poursuivre un petit peu jusqu'en début de soirée. Comment s'est posé le choix du parcours ?
L'idée, c'était... En tout cas, sur la définition du parcours, l'idée, c'était aussi de sortir un peu du quartier du Blône et de rester dans les quartiers sud. Ça s'est imposé aussi pour créer une sorte de nouvelle centralité à Rennes. Parce que voilà, c'est vrai que les événements ont souvent lieu dans le centre-ville. On voulait proposer quelque chose qui se passe dans les quartiers sud. Et la tablée fantastique qu'on organise en fin de saison habituellement, c'est vraiment avec les partenaires du Blône. Et là, d'aller aussi travailler avec des acteurs du quartier Brechini. Et donc de créer un parcours qui relie les deux quartiers. D'où le départ, effectivement, rue de Suède. Et puis ensuite la traversée d'Henri-Fréville et puis le passage devant Italie et puis la progression jusqu'au Triangle.
Et vous parliez de vraiment voilà, ce lien avec le quartier. C'est un projet que vous avez monté du coup avec les habitants et habitantes. Comment le dialogue il s'est fait et il s'est construit au fil des mois ?
En fait, le dialogue avec les habitants et habitantes au Triangle, il est toujours là. parce qu'il y a un travail permanent qui est fait auprès des écoles. Enfin, on est en contact permanent avec, avec le quartier. Plein de dimensions différentes, mais du coup, c'était, enfin oui, le lien s'est fait de façon assez évidente. Il y a trois écoles qui sont parties prenantes et qui vont défiler, et un collège, le collège des Chalets, qui est justement du côté de Bréquigny. Trois écoles du quartier, il y a l'école Volga, l'école Saint-Armel et une autre école dont j'ai oublié le nom, évidemment. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment ce travail avec les écoles, le travail avec les habitants aussi, parce que le Triangle, c'est aussi un lieu de vie pour le quartier. Il y a une bibliothèque, les gens viennent voir les spectacles, viennent juste se poser sous la halle, dans le hall. Et donc, voilà, ça se fait de façon fluide, quoi.
Mais du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être un moment une envie que... Là, du coup, vous faites intervenir des chorégraphes extérieurs. Ouais. Est-ce que peut-être que dans les habitants et habitantes, il y avait un ou une chorégraphe en herbe qui aurait pu aussi chapeauter un peu tout ce côté danse, je ne sais pas.
Eh bien, oui, mais là, en fait, l'idée, c'est aussi... Le triangle est vraiment dans un esprit de soutien à la création artistique. Et là, c'est vraiment... l'idée, c'est de soutenir cette création qui est faite par Bruce Schaeffer, qui est chorégraphe. Et en même temps d'aller à la rencontre des praticiens, praticiennes amateurs. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est que parmi les 400 participants au défilé, eh ben, il y ait plein de chorégraphes qui émergent et qui soient de futurs artistes associés du Triangle à l'avenir.
Et est-ce qu'on peut peut-être s'attendre à une prochaine édition l'année prochaine ?
Là déjà on va vivre cette édition. C'est pas à l'étude on sait pas, hein, ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas c'est pas d'actualité. Et l'idée c'est de vivre vraiment cette édition à fond, et l'année prochaine de se donner une année être dans l'écoute, là aussi garder ce lien avec le quartier, mais être plutôt dans une étape d'écoute et d'enquête sensible un peu du quartier et des personnes qui fréquentent le Triangle.
Eh ben, on vous donne rendez-vous samedi et nous, on y sera avec notre radio aussi.
Et oui, le Radio Caddie qui sort du garage. En plus, il fera beau. Voilà, on ne devrait pas avoir la pluie.
Inespéré.
Oh là là. On espère en tout cas. Normalement, c'est bon. Il devrait faire même très chaud. Merci Thomas d'être venu, et puis à samedi.
Merci beaucoup.
Donc le Radio Caddie sera de 16h à 17h, et ensuite il y aura un plateau qui s'enchaîne en direct du Triangle de 17h à 18h. Donc voilà, 2h en direct du défilé fantastique samedi. Ne manquez pas ça.
6h avant minuit.
Cess nous a concocté un premier épisode de Dans la sauce, la chronique culinaire qui s'intéresse à une bouffe ancrée dans la société.
Le culinaire, ça convoque plein d'enjeux, depuis la production de la matière première, en passant par les conditions de sa transformation, jusqu'à la réception dans nos assiettes, nos salles à manger, nos vies. En somme, on ne va pas perdre de vue le fait qu'on vit dans une société de saucisses tout en te donnant 2-3 astuces de bon gueuleton. Pour cette première chronique, j'avais envie de considérer l'écologie. Et selon moi, une voie intéressante pour manger écolo, c'est pas nécessairement de manger bio, mais surtout de manger de saison et local. Bah oui Mireille, ton avocat bio équitable, a priori, il vient plutôt d'Amérique du Sud. Et toi Émile, je te vois faire ton malin avec ta tomate d'avril, tu savais qu'elle sort tout droit d'une serre chauffée ? Et toi-même, tu sais que le coût CO2 d'un paquebot ou d'une chaufferie, c'est jamais un bon bail pour la couche d'ozone. Alors que le petit chou rave qui pousse tranquille à Château-Giron de mars à novembre, laisse-moi te dire que c'est tout de suite bien plus rentable. Encore faut-il savoir quoi en faire. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Faisons d'abord les présentations. Le chou rave ressemble à un beau bulbe lisse qui peut être d'un vert pâle ou d'un violet tout à fait mignon, surmonté de quelques feuilles vert foncé, souples, douces et comestibles de surcroît. Les diamètres peuvent varier, à toi de choisir en fonction de ton appétit, mais aussi du destin gastronomique que tu lui réserves. Ce bulbe n'est pas une racine, c'est la tige du chou rave. Un peu comme la rhubarbe ou la blette, plus elle sera épaisse, plus elle sera fibreuse. Donc si tu as la flemme de sortir l'économe, reste-en à des chou raves de petit gabarit, genre 5 cm de large. Oula, mais c'est qu'on a transitionné sans faire gaffe vers la section préparation. Première option, le chou rave, c'est une super crudité. Tu peux le faire râper en compagnie d'une carotte ou d'un radis surmonté d'un filet de citron. Tu profiteras alors de sa discrète sucrosité. Coupé en fines lamelles pour faire un carpaccio ou un support à hummus, tu pourras alors savourer son croquant. Dans les deux cas, effet fraîcheur garanti. Ce goût légèrement sucré et ce croquant te rappelleront peut-être la dégustation d'un pied de brocoli. Et c'est personnellement ce qui m'a donné l'idée de l'intégrer à un curry, dans lequel j'aime abuser du dit brocoli. Alors le curry, ça revêt bien des recettes. Dans ma cuisine, ça va pouvoir prendre deux tournures, celle d'un dalle de lentilles ou d'un curry japonais. Dans le premier cas, on mariera des légumes sautés dans les épices et la yaché à des lentilles corail cuites au préalable à l'eau salée avec un soupçon de bicarbonate. Et sans lésiner sur l'huile s'il te plaît, car les épices, elles ont besoin de corps gras pour qu'on puisse pleinement s'en délecter. Dans le second cas, le temps me manque pour te décrire la recette dans le détail. Alors je t'invite à te procurer le curry japonais, 10 façons de le préparer. Un livret signé Ryoko Sekiguchi et la famille Rollinger que tu trouveras aux éditions de l'Épure. Pour ma part, j'ai chiné mon exemplaire à la Nuit des Temps, situé 10 quai Émile Zola à Rennes. Pour toute réclamation ou demande de précision, tu connais déjà la chanson. Laisse un message sur le répondeur de Cham. Allez, à plus les foodies.
À plus, Cesse, à bientôt pour un nouvel épisode, j'espère. Et je crois que tu as donné fin à Timothée, je vois, de l'autre côté de la ville. Là, ouais, ça gargouille, j'entends d'ici. Et je valide et je conseille totalement le carpaccio de Chourave. C'est une tuerie. Et si on écoutait notre répondeur?
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Coucou, l'équipe de 6h avant minuit, c'est Benoît de Saint-Malo. Bah, vu qu'il n'y a personne qui utilise le numéro du répondeur, donc je me suis dit pourquoi pas de vous laisser un message et tout. Donc, pour commencer, il n'y a pas beaucoup d'infos locales dans le secteur de Saint-Malo, mais par contre. Il y a un peu de trucs sur Rennes et sur Saint-Brieuc. Donc ce soir à Rennes, il y a le groupe Eki, donc un groupe funk rennais qui joue au bar à bière le Brooklyn. Alors je crois que le Brooklyn, c'est sur la route de l'Orient où il y avait l'ancienne usine de la Barthona. Donc un groupe que j'ai vu au Transmusica de Rennes en 2021 ou 2022. Si je me trompe pas, et que j'ai adoré parce que je suis fanade de la funk music et puis bien sûr du disco et tout ça, donc de la soul. Donc ils joueront ce soir jeudi 12 à 20h30 pour une seule date unique à Rennes. Donc voilà, si vous voulez aller ce soir, allez-y parce que franchement c'est un groupe super super sympa. Tous les membres du groupe sont sympas et bien sûr c'est à 20h30. Alors, bien sûr, on va continuer un peu. À Rennes, alors je sais pas si c'est ça ou pas, alors, si je me trompe pas. À Rennes, il y a le festival de musique qui est situé au Jardin de Moderne, je sais plus le nom en tête. Donc ça commence demain et après-demain. Il y a une super programmation musicale. J'ai pas tout en tête, mais bon, vraiment, c'est un festival qu'il faut y aller, donc il y a une bonne programmation. L'année dernière, j'avais vu le groupe Cécile, qui est un groupe qui passait bien sûr au Transmusica de Rennes. Et là, vu que j'ai pas le papier pour voir ce qu'il y a comme tête d'affiche dans ce festival-là, donc voilà, et puis bien sûr. J'ai pas les prix de la billetterie, donc je pense que peut-être pour les auditeurs ou les auditrices de SILAB, ils vont peut-être savoir ce que c'est comme festival. Et bien sûr, on va aller vers Saint-Brieuc, à la salle Bonjour Minuit, donc une salle de concert qui est très réputée dans le secteur de Saint-Brieuc. Bien sûr, c'est le truc organisé par le Festival des Vieilles Charrues, donc il y a le groupe Falen Alien et Horizontal Francis, qui ont joué récemment à l'Ubu la semaine dernière. Et si vous voulez revoir ces deux groupes-là, c'est demain, c'est à vendredi 13 à 20h30, et en plus c'est gratuit, donc vraiment il n'y a pas besoin de sortir 10, 15, 20 euros ou même 30 euros. Donc c'est gratuit. Et puis au moins, vous avez passé une bonne soirée à Saint-Brieuc, à la salle Bonjour Minuit. Donc voilà. Donc c'était tout. Puis je remercie à toutes les équipes de l'émission, ainsi qu'aux émissions de SILAB, comme l'émission Défi le mardi soir, Sorcier des briquets, où Manon et Maïli ont fait une très très bonne playlist spéciale Mois des Fiercés, avec bien sûr le titre que j'adore de Daniel Ross, I'm Coming Up, extrait de l'album sorti en 1980, produit par Bernard Edwards et Nile Rodgers du groupe Chic, que j'adore, un album que j'ai trouvé récemment à la Braderie de Lille en 2019, pour pas très cher, et puis c'est toujours bon à écouter. Ainsi qu'à l'émission de Rain to the Hill, l'émission de métal, où franchement toute l'équipe est vraiment sympathique. Et puis certes, moi qui n'ai pas fanat de métal, mais bon, en tout cas, c'est une très très bonne émission de métal le mardi soir après Sortez les briquets. Ainsi que l'émission d'hier soir, le Sémaphore, qui est une très très bonne émission où Goat fait vraiment une bonne sélection de hip-hop palestinien. Donc voilà. Allez, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à la prochaine. Si j'ai des infos encore, j'appellerai toujours sur le répondeur. Voilà, gros bisous à vous, ciao.
Merci Benoît, à la prochaine, et faites comme Benoît, laissez-nous un message vocal pour nous dire tout ce que vous voulez, on vous écoute au 02 30 96 25 35. Je voulais aussi vous dire qu'il y a toujours un jeu concours en ce moment, c'est avec l'asso humanitaire Pengal Alayam, une asso qui vient en aide aux femmes et filles indiennes victimes de violences. Et donc Pengal Alayam organise deux journées de découverte de la culture indienne les 27 et 28 juin prochains. C'est à Jonzé et c'est le Fest India. Pour l'occasion, vous pouvez gagner une place pour le spectacle de danse et musique indienne. C'est le samedi soir à 20h30 à Jonzé. Pour jouer, vous aurez besoin d'un mot de passe qui est... Est-ce que vous vous rappelez du mot de passe autour de la table? Non. Le temple des femmes. C'est la signification de Pengal Alayam en tamoul. Pour jouer et pour gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Nous, on se retrouve samedi pour le défilé fantastique. Rendez-vous 16h avec le Radio Caddie en plein défilé. Timothée, tu voulais ? Vas-y, Timothée, on t'écoute. Timothée voulait rajouter quelque chose, la technique en force.
Et oui, nous avons aussi un plateau demain, non en direct, mais enregistré, qui aura lieu au LAP, le Laboratoire Artistique et Populaire, à la station de métro Gros Chêne.
Donc on peut venir y assister, c'est ça ?
Tout à fait.
Merci Timothée, et merci pour la technique à peut-être au LAP, ou sinon en direct au Défilé Fantastique, samedi 16h. Au Blône, salut.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur SILAB,
la radio sauvage.